le spécial du balado de Book & You. Après 2 ans de pause, les salons du livre à Québec et à Montréal étaient de retour. Jennifer Dommer était sur place et a rencontré 5 autrices et auteurs pour échanger sur leurs nouveautés. Aujourd'hui, elle parle avec...
Michel Jean, je suis écrivain Innu de la communauté de Mashuyat.
Heard it for the first time at 16, thought it was a daydream, didn't wake up.
On est au Salon du livre à Montréal, puis c'est déjà le 4e jour, je crois. Comment ça se passe pour toi, le Salon du livre?
C'est vraiment un beau salon cette année, je trouve. On est dans un nouveau lieu par rapport à avec avant. C'est post-pandémie, les gens sont contents d'être là, les gens sont nombreux. Et puis, les gens ont beaucoup lu pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler de livres. C'est comme un genre de retrouvailles, si on veut. Et pour moi, ça se passe super bien. Là, ça se termine parce que demain, je m'en vais à Guadalajara. Mais j'ai fait 3 jours où c'était super. Moi, je me sens toujours content de rencontrer les gens qui ont lu tes livres, t'en parlent, en achètent pour l'ont lu, puis viennent l'acheter pour leur tante, leur mère, etc. Donc, c'est toujours un beau moment, je trouve.
Comment tu te prépares pour des séances de dédicace? Est-ce que tu te prépares genre une petite phrase ou qu'est-ce que tu mets? Ou c'est juste c'est le nom? Et comment ça se fait?
Quand les gens signent, j'essaie de pas juste signer « Bonne lecture, Michel Jean ». C'est sûr qu'on a comme des phrases qu'on va mettre ou utiliser. S'il y a 2 personnes, par exemple, qui achètent le même livre, j'essaie de pas leur écrire la même chose parce qu'ils comparent, ils vont dire « Ah, ben finalement... » j'essaie de leur trouver quelque chose qui va les faire sourire ou qui va leur dire que le livre est spécial ou un truc comme ça. Honnêtement, c'est vraiment sans prétention parce que je crois pas, moi, au message très songé sur le livre. Là, c'est comme un contact, puis une manière de dire bienvenue à la lectrice puis au lecteur qui va lire ton livre.
Donc, il y a des dédicaces d'un côté, de l'autre côté, il y a des tables rondes, des discussions sur différentes scènes. Tu en as participé à quelques-uns. C'est quoi les sujets, en fait, qui sont mis de l'avant?
Cette année, c'était varié quand même. J'ai fait, aujourd'hui, j'en avais 2. Il y en avait un, on parlait de comment c'était quand on allait à l'étranger avec nos livres, quel genre d'impact ça avait sur la carrière des écrivains, comment les gens recevaient nos livres à l'extérieur, vraiment toutes ces questions-là. Puis en après-midi, tout de suite après, je faisais une rencontre sur la littérature de science-fiction, moi qui n'en écris pas, mais j'ai dirigé un collectif avec des auteurs autochtones, qui était le premier collectif d'auteurs autochtones en français au Québec, qui étaient des textes d'anticipation ou de dystopie, puis j'étais un grand lecteur de science-fiction quand j'étais jeune. Donc, c'est très rigolo parce que j'étais avec Bernard Werber, puis j'étais avec une Farah Libé, qui fait fonctionner le petit robot sur la planète Mars. C'est une Québécoise, elle écrit un livre. Alors, j'étais avec eux à parler de science-fiction, c'était vraiment rigolo et sans prétention. Puis j'ai eu une autre rencontre plus tôt cette semaine où là... j'étais à une émission de radio avec la France, puis il y a eu un débat sur l'identité, tout ça, entre Dany Laferrière, moi. Alors, c'était intéressant. Ce que j'aime, c'est que j'aime pas quand, mettons, on m'invite toujours pour parler de problèmes ou de situations autochtones, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'on t'invite seulement pour parler de ça, alors que j'écris des livres comme tout le monde. J'aime ça quand on m'invite à parler de littérature ou de trucs connexes. Et cette année, c'était comme ça. Alors, moi, j'aime ça parce que j'aime parler avec les gens, j'aime faire des blagues, puis j'aime rencontrer les gens qui viennent. Et j'aime ça quand on est plusieurs parce que c'est sympathique. Alors, puis en même temps, les collègues sont souvent très bons et très brillants. Puis ça m'enrichit moi-même. Aujourd'hui, j'écoutais les gens qui parlaient pendant que je participais à un truc avec eux. Je disais, oh, c'est bon, ça, c'est brillant. Faut que je retienne cette phrase-là. Donc, c'est à la fois plaisant et enrichissant. Je suis comme une lectrice ou un lecteur qui va là, hein, sauf que je participe à la discussion, mais j'écoute les gens, puis il y a des questions du public, alors c'est sympa.
Mais justement, tu avais aussi dit une belle phrase, une métaphore que j'avais notée de ce matin. C'était comment ajouter des fenêtres à la maison pour qu'il y ait de lumière qui entre et qui fait mieux voir, en fait.
Parce que c'est quelqu'un qui disait que quand on écrit, c'est comme quand on est une fenêtre, et quand on a une langue, juste une langue, c'est comme si on a juste une petite fenêtre. Mais c'est parce que moi, j'écris dans mes romans. Mes romans parlent souvent de sujets qui sont durs, puis ça interpelle les gens. Mais je sais toujours quand même qu'il y a de la lumière dans mes romans. et que ça ouvre une fenêtre sur quelque chose. Et qu'on ne soit pas toujours juste prostré sur soi-même avec rien. Donc, ce que je voulais dire, c'était que dans le fond, souvent, les livres nous permettent d'ouvrir toutes ces fenêtres sur le monde. Tu sais, sur les différents côtés, selon les livres, selon les moments de notre vie. Et c'est le pouvoir de la littérature, je pense, d'ouvrir ces fenêtres-là. Ouais.
Ça m'amène, en fait, à ton roman que tu m'avais donné à Francfort, Joe Jagger. C'est l'histoire d'Élie, mais je pense que tu pourrais mieux m'en parler.
Bien, c'est l'histoire d'Élie Michetonapéo. En fait, c'est un roman où il commet un crime, il fait de la prison, il sort de prison. Et comme beaucoup d'Autochtones, la sanction de sa communauté est plus dure encore. Il a fait 10 ans de prison, mais il est banni à vie de sa communauté. Et les gens, souvent, on a l'impression que, tu sais, un bannissement, c'est une sentence bonbon. Tu n'as juste pas le droit de retourner chez vous. Mais quand tu es autochtone, tu as toujours vécu en communauté. Être chassé à vie d'une communauté, on ne dit pas un village, on dit une communauté, c'est très grave. Et il se retrouve donc dans la rue, comme beaucoup. Si vous allez dans les grandes villes du Canada, toutes les grandes villes du Canada, vous allez vous rendre compte que beaucoup des sans-abri sont autochtones. Et la proportion de sans-abri, de gens qui vivent dans la rue, de l'itinérance est beaucoup plus importante que ce qu'on est comme proportion dans la population. Je voulais raconter un peu ça et aussi qu'il y a une solidarité qui s'organise entre Autochtones pour s'aider, se soutenir. Moi, je l'ai vu souvent. Dans mon travail de journaliste, ça m'est arrivé souvent. Un jour, j'étais au Square Cabot, puis il y a une famille qui est descendue de Pessamite sur la Côte-Nord. Ils avaient un membre de leur famille qui était dans la rue. Ils ont apporté des vêtements d'hiver, des bottes, un bonnet, des mitaines. Ils l'ont habillé pour l'hiver. Après ça, ils sont retournés. J'ai vu une fois des madames qui étaient là, des Mohawks de Ganawagé, qui est une réserve sur la rive sud, près d'ici. Un midi, ils sont arrivés, les dames. Ils avaient de la nourriture pour tout le monde qu'ils avaient préparée, avec du gibier, dans des plats Tupperware. Tout le monde est venu, les itinérants. Ils ont nourri. Après ça, ils ont ramassé leur truc, ils sont en allée. On n'en parle pas dans les médias, mais il y a cette solidarité-là. J'ai beaucoup d'amis qui font du bénévolat. Donc, je vais montrer qu'il y a cette solidarité-là qui s'articule dans les villes. Puis je voulais aussi montrer que même si les pensionnats autochtones sont fermés, on vit encore avec les conséquences. Les vies brisées, ça prend du temps avant de les ramener. Et il y a beaucoup de gens qui vivent justement dans des conditions très difficiles encore aujourd'hui parce que c'est, on appelle ça nous, les blessures intergénérationnelles. Les pensionnats sont fermés, mais on vit encore avec les conséquences.
Et comme tu disais, il y a aussi de la beauté dans tout ça. Je trouvais ça bien écrit, justement, la relation entre les sœurs.
La patouk.
C'est ça. Puis, justement, il y a la fille d'une de ses sœurs, Lisbeth, qui, avec Élie, va se créer une relation lentement. Et tu as dit, ça se passe pour la plupart à Montréal, mais il y a quand même un retour aussi dans notre chimie.
Oui, parce qu'en fait, au départ, je me suis dit, je vais créer un genre de camp de ressourcement où des Autochtones sont amenés pour se replonger dans leur culture, puis se retrouver. Puis quelqu'un m'a dit, ça existe, il y a un reportage qui a été fait, puis j'ai trouvé le reportage, un documentaire, où c'était exactement comme dans mon histoire. Mais les gens disaient des choses encore plus profondes que moi dans mon livre. J'ai comme repiqué un peu ce qu'ils disaient, puis je l'ai intégré dans le roman. Puis c'est vraiment, puis dans leur cas, ils étaient quatre. Puis il y en a trois qui en sont sortis, puis il y en a un qui est resté dans la rue. Et donc, c'est des choses qu'on fait, puis qui n'existent pas vraies. C'est-à-dire que quand les gens sont dans la rue, ils ont comme perdu le sens de leur vie, puis des fois, ils ne s'en rendent pas compte pourquoi c'est arrivé. Il est arrivé un événement, puis on dérive, puis à un moment donné, on est comme trop loin pour revenir à la nage, puis on est pris. Et il y a des gens qui font ça, qui les prennent par la main, qui les ramènent tranquillement. Et pour nous, le territoire, c'est toujours une source de ressourcement, parce que quand on est autochtone, c'est pas juste le pays dans lequel on vit le territoire. On est le territoire. La langue est en fonction du territoire, le mode de vie est en fonction du territoire. Les gens se définissent par rapport au territoire. Donc, c'est difficile de guérir sans avoir un lien avec le territoire. Puis je voulais quand même que les gens comprennent ça. Ça fait partie de la façon dont beaucoup d'Autochtones voient les choses, vivent, puis ressentent les choses aussi.
Puis comment ont été les réactions du public québécois à ce livre-là?
Bien, j'étais un peu inquiet parce que Cocum, mon roman précédent, avait été un immense succès ici, puis on est rendu à 175 000 copies. Et je me suis dit, tu sais, Cocum, ça passe en forêt, il y a quand même, tu sais, il y a quand même du beau dans la nature. Et je me disais, un roman qui se passe à Montréal, en ville, avec des sans-abri, des itinérants. Est-ce que les gens vont aimer ça? Et ça a super marché. Le roman a été pendant un an au palmarès. On est rendu à plus de 70 000 copies. Je veux dire, pour le Québec, c'est vraiment beaucoup. Et ça m'a rassuré parce que ça m'a dit que c'est pas juste le côté forêt, nature que les gens aiment. Ils s'intéressent vraiment au sort des Premières Nations de plus en plus. Et dans ce sens-là, ça m'avait rassuré. Puis les critiques ont été bonnes. Quand t'écris, tu veux que les lecteurs, lectrices aiment. Tu veux que les critiques aiment parce que t'aimes pas que quelqu'un dise que ton livre est pas bon parce que tu mets tout de toi dans le livre. Mais ça peut arriver, puis c'est correct. Mais non, Joe Jagge a une belle vie, puis ça continue. Il va être publié à l'étranger aussi, donc j'ai hâte de voir aussi comment les gens vont l'accueillir là-bas.
Il me semble que tu mentionnais que tu travailles déjà sur un autre livre. Qu'est-ce qui vient pour toi?
Moi, j'écris pas vite. Et en plus, j'ai un autre travail que celui d'écrivain. Et donc, je peux pas me permettre des longues périodes sans écrire. Et sinon, de toute façon, je me sens pas bien. J'ai besoin d'être plongé dans une histoire, avoir... Ça paraît pas quand on me rencontre, mais c'est toujours dans ma tête. Puis ça tourne. Puis si j'ai pas ça, là, c'est comme un genre de... Ça fait partie de moi. Donc, je commence à écrire le plus vite possible. Et le prochain roman va se passer dans le Grand Nord, avec les Inuits. Puis ça va aborder la question du massacre des chiens nordiques au Canada, au Québec, dans la province où j'habite. Dans les années 60-70, le gouvernement a regroupé de force les Inuits dans 14 communautés. Ils vivaient avant en clan un peu partout, sur le bord de l'océan. Puis ils ont forcé à vivre dans des endroits comme ça où il n'y aurait pas assez de nourriture. Tu ne peux pas chasser. Un chasseur Inuit, c'est comme un ours. Ça a besoin d'un territoire assez grand pour avoir assez de gibier. Donc, on les condamnait en étant 300 dans un même endroit à plus être capable de vivre la chasse. Et chaque chasseur venant avec son chien, bien, ses chiens, les traîneaux, on a dit que c'était dangereux d'avoir autant de chiens dans des petits villages. Donc, le gouvernement a massacré les chiens, a tué les chiens. Et si les chasseurs refusaient de tuer leurs chiens, les policiers allaient tuer les chiens devant les gens. Et c'est facile d'imaginer le traumatisme que ça a créé chez les Inuits, avec lequel ils vivent encore. Et c'est un pan pas très connu de l'histoire du Canada et de l'histoire des Autochtones au Canada. Donc, mon roman va aborder cette question-là. Et comme j'aime les chiens en plus et que j'en ai, je suis team chien.
C'était un épisode du spécial du balado de Book & You avec Jennifer Demeur et Michel Jean, soutenu par l'Association internationale des études québécoises. It's running still. It's running still.